L'Odyssée d'un voleur de pommes de Moïse Rosenbaumas, autobiographie d'un juif lituanien né en 1922, traduite du yiddish par la fille de l'auteur, est un témoignage sur la réalité foisonnante du monde juif d'Europe de l'Est avant 1945. C'est aussi un document sur l'armée rouge et le système stalinien vécu de l'intérieur. Le texte, écrit en yiddish, a d'abord été traduit par Moïse Rosenbaumas lui-même, puis a été repris par sa fille Isabelle au fil d'un dialogue qui a parfois étoffé le récit initial. Né en 1922 dans une bourgade de Lituanie, Moïse Rosenbaumas raconte la vie de cette société pauvre et laborieuse à la veille de sa destruction. L'auteur évoque les métiers qui avaient à leur cours, les plats de misère et les jours de fête, le climat rude et les jeux d'enfants, glisser sur le lac glacé avec un seul patin et voler des pommes dans les vergers les plus difficiles d'accès. Tandis que le père de Moïse abandonne sa famille après une faillite causée par la crise mondiale, le petit garçon commence à travailler à l'âge de 10 ans, puis devient tailleur. La guerre éclate et l'adolescent s'enfuit après avoir tenté de convaincre sa mère et ses frères de le suivre. Ils seront tous assassinés avec les autres juifs lituaniens entre juillet et décembre 1941. Au cours de son périple, Moïse est interné avec d'autres Russes dans un kolkhoz d'Ouzbékistan où il subit le travail forcé et la faim. Il parvient à s'extraire de cet enfer et s'engage dans l'armée rouge où il sera éclaireur. Décoré comme soldat, il devient cadre du régime soviétique jusqu'à ce que sa conscience et surtout sa femme l'incitent à sortir de cet enlisement dans le système. En 1957, il rejoint ainsi son père en France qu'il n'avait pas vu depuis près de 30 ans. Moïse s'est éteint le 1er novembre dernier. Isabelle a traduit de nombreux ouvrages du yiddish et encore tout récemment chez Kalman Levy, l'extraordinaire journal de Lai Broschmann. En nous approchant des montagnes de l'Oural, il nous sembla que nous étions dans la direction voulue. Nous voilà donc descendus du train et en chemin pour une tournée des kolkhoz afin de reconstituer notre réserve de pain et gagner notre pitance. Curieuse habitude, cette manie de se nourrir tous les jours. Nous reprîmes la route à pied avec en guise de besace nos sacs de pommes de terre en toile de jute sur l'épaule. Nous avons vagabondé jusqu'aux environs de la ville de Perm. Je ne me souviens plus au juste des noms, des villes et des bourgades que nous avons traversées, mais c'était en tout cas au-delà de Sverdlovsk, aujourd'hui Yekaterinenburg. Nous sommes ainsi parvenus en vue d'un village dont nous pensions à une certaine distance qu'il s'agissait d'un kolkhoz. De loin, cela y ressemblait en effet, mais il s'avéra en nous rapprochant que nous avions affaire à un goulag. C'est en remarquant les soldats du NKVD que nous avons compris que quelque chose clochait et avons rebroussé chemin. Sans perdre de temps, nous nous sommes mis à marcher dans la direction où notre regard nous portait. Les gens me suivaient. À l'époque, nous ne savions naturellement rien des goulags politiques. Nous avions pris des barbelés pour ceux d'un camp de prisonniers de droit commun, même si nous sentions bien qu'il n'y avait pas lieu de s'attarder à proximité. Revenus sur nos pas, il ne nous restait plus qu'à remonter dans le train à Perm pour Sverdlovsk. Cette ville, qui était la capitale de l'Oural, n'était pas mal du tout. Beaucoup de Juifs y vivaient, mais il n'y eut pas moyen d'y trouver le moindre abri où poser nos têtes pour passer ne serait-ce qu'une nuit, car nous n'étions pas les seuls réfugiés à nous retrouver là. Durant quelques jours, nous errâmes dans la ville. Il fallait bien nous résoudre à reprendre la route. Grimper dans un train n'était plus un problème pour nous. Un wagon bondé ne nous faisait pas peur, car nous avions pris l'habitude de nous glisser et de monter quelle que soit la situation, quitte à exercer une poussée, comme on le voit dans le métro parisien le matin et le soir, aux heures de pointe. Une fois à l'intérieur, nous trouvions toujours un petit coin dont nous nous contentions pour nous asseoir, le plus souvent par terre. Nous arrivâmes ainsi à Kourgan, où nous sommes descendus. C'était une ville moyenne qui ne présentait pas d'intérêt à nos yeux. Nous voici à nouveau dans un train. Très vite, nous nous sommes aperçus que nous faisions fausse route et qu'au lieu de partir pour les régions ensoleillées et chaudes, nous roulions de façon évidente vers le froid. Avec notre chemise sur le corps, il nous fallait réagir rapidement, car la situation pouvait avoir pour nous des conséquences catastrophiques. Il n'y avait pas d'autre solution que de reprendre un train. Nous avions une peur bleue à l'idée de nous retrouver en Sibérie. C'est ainsi que nous avons atteint Omsk, puis de là Tomsk. Nos recherches pour dénicher une quelconque institution de la communauté juive dans cette ville furent complètement vaines. Il n'y avait personne pour nous aider, et du reste, il y avait peu de juifs dans ce coin du globe, mais des gens nous conseillèrent de tenter notre chance du côté d'Alma-Ata. Nous n'avions pas vraiment le choix du moyen de locomotion, mais cette fois-ci la chose était plus difficile, car les transports ferroviaires étaient rares dans cette direction. Je ne saurais énumérer ici toutes les villes que nous avons encore traversées, mais nous parvînmes finalement à Alma-Ata. Après ce que nous avions souffert en abordant la Sibérie, où nous avions grelotté de froid et malgré tous nos malheurs, nous étions très avantagés par rapport à d'autres voyageurs. En effet, nous étions libres comme l'air, sans valise, ni sac à dos, ni argent à surveiller. Nous avions juste nos deux sacs à pommes de terre à moitié et même aux trois quarts vides, comme nos ventres. C'était la raison pour laquelle il nous était si facile de nous faufiler dans la bousculade, monter les quelques marches de la voiture quand nous nous glissions pas par la fenêtre, exploit évidemment hors de portée des autres voyageurs qui avaient quitté leur foyer avec leur famille, des enfants en bas âge sur les bras, et qui, hormis les valises, emportaient des colis et des baluchons enveloppés dans des draps prenant beaucoup de place. Nous avions parcouru un bon bout de chemin depuis Tomsk, mais au lieu de descendre vers Tashkent, qui était notre destination initiale et vers laquelle affluaient tous les réfugiés, nous nous étions éloignés vers l'est, aux confins du pays, à proximité de la frontière occidentale de la Chine. Il faisait en effet beau et chaud là où nous étions arrivés, et ce facteur était crucial pour notre survie. Subir la disette est moins pénible quand il fait chaud, car le froid redouble les souffrances. J'étais un très jeune homme originaire d'une bourgade de 8000 habitants, et ne m'étais jamais éloigné de chez moi plus loin que Kaunas, capitale de la Lituanie entre les deux guerres, à 200 km de Telts. À présent, je me retrouvais presque seul à des milliers de kilomètres de ma maison et à deux pas de la Chine. Nous ne franchîmes pas la frontière parce que cela ne dépendait pas de nous. Nous n'étions pas les maîtres de notre destin et les Russes ne nous auraient pas laissé passer. Les quelques jours à Alma-Ata ne furent pas gais. Nous avions très faim et il ne nous restait plus rien à manger. En outre, la population se montrait très inhospitalière. Les Kirghizes ne voulaient même pas employer le russe. La mairie de la ville nourrissait les réfugiés une fois par jour. Là, nous avons appris qu'à Tashkent, la capitale de l'Ouzbékistan, un comité local prenait en charge des réfugiés et à nouveau nous revoici dans le train. Seul un coup d'œil sur un atlas permet de se forger une idée des multiples détours inutiles que nous avions faits depuis Sverdlovsk. Il est vrai que nous étions tributaires de l'administration militaire. Tashkent était vraiment une belle ville, assez grande et presque coquette en temps de guerre. Le soleil y brûlait et la chaleur était si intense qu'on étouffait. En regardant fixement l'asphalte, nous croyions voir la mer onduler et des vagues se former. Les bâtiments peints en blanc, les jardins et les arbres qui abondaient donnaient une impression de propreté à cette ville étendue. Les rues pourtant grouillaient de gens. Les réfugiés se couchaient et dormaient à même le sol sur les trottoirs. Ils y faisaient cuire leur nourriture dans des conditions sanitaires très précaires. Les autorités avaient fait évacuer des milliers de réfugiés des territoires occupés par les Allemands et la rue leur offrait la seule solution gratuite car les bâtiments publics qui avaient été réquisitionnés étaient pleins depuis longtemps. Chacun était obligé de se faire inscrire par le gouvernement. Une fois enregistré, il recevait une carte de ravitaillement dans un bureau dont il dépendait. Puis les autorités nous regroupèrent par nationalité pour nous envoyer dans les villages et les kolkhozes. Sie ist der Stern, schein auf der Schalen, und schein aus, und ein Genomen, nie ist denn mein Werk, komm zuvor.
Kazan seine mir gefunden auf die Richtung von Ural. Wir können nicht sagen, gefahren. Nur man muss besser sagen, man hat uns geführt. Das stimmt besser mit der Wirklichkeit. Als wir haben sich der Nenter zu der Uraler Berg, haben wir sich gesagt, das stimmt nicht mit unserer Richtung, wo wir wollen fahren. Seine mir herab vom Bahn. Wir haben beschlossen, als wir wollen ein bisschen gehen in die Kolchosen, zu verdienen, aufzumessen. Haben wir sich gelost über die Wegen, mit den Torbes auf die Plätze. Als ich sage, mit den Torbes, stimmt das mit der Wirklichkeit, weil das ist gewesen ein einfacher Sack verbunden mit einem Strick. Wir sind gekommen in Gegend nicht weit von Perm. Ihr gedenkt, so nicht genau die Namen von der Stadt. Allenfalls ist das gewesen hinter Sverdlovsk. Wir haben gemeint, als da ist ein Kolchos. Es hat ausgesehen als er. Aber in der Emes ist das gewesen ein Gulag oder ein Arbeitslager. Als wir haben bei mir die Soldaten von NKWD, haben wir gleich gemacht einen Gang auf zurück. Wir sind gegangen, wo die Augen haben getragen. Wir haben damals nicht gewusst von den Lagern. Aber wir haben gemeint, dass durch seinen Stamm Kriminelle arrestierte. Dann haben wir sich umgekehrt in Perm und genommen den Bahn und angekommen in Sverdlovsk. Wir rufen das jetzt Ekaterinburg. Da sind wir auch in Stadt. Nun können wir sagen, eine ganz kleine Stadt, die Hauptstadt von Ural. Da haben wir gelebt als Sachiden, aber wir haben nicht gefunden, wo er wegzulegen den Kopf, weil wir seinen nicht gewesen der Einzige, wo seinen da angekommen. Wir haben sich also herumgedreht ein paar Tage und weitergenommen den Bahn. Das ist für uns nicht gewesen kein Problem. Wir sind gewesen zu dem angewöhnt. Aber viele, die Bahnen seinen gewesen übergeladen, oder besser gesagt übergepackt mit Menschen, aber wir haben sich herangestuft über Gewalt, also wie man sieht das bei uns im Metro, in der Früh und vor Nacht. Und nachdem, als man ist ein innenwenig, sucht man sich es ein Winkel, sich zu wegzusetzen. Auf viel auf der Erde ist man echt zufrieden. Kein Valides haben wir nicht gehabt, nur unsere zwei Säge, welche sind gewesen mehr wie halb ledig. Also wie der Morgen. Für uns ist der Erfgen gewinn viel leichter, wie für die Menschen, welche haben gehabt viel Pech. Von da an sind wir angekommen in Kurgan. Da sind wir weiter heraufgegangen. Das ist gewinn am Mittelstadt. Da haben wir gleich genommen eine andere Bahn, weil wir haben sich überzeugt, dass wir an mir fahren nicht in die gute Seite, wo wir wollen fahren. Wir haben gewählt vorn dort, wo es ist warmer, und uns führt man gar, wo es ist als kälter. Also wir seinen Gewinn ungetan leicht, nur mit der Hand, ist das für uns Gewinn eine Katastrophe. Wir haben nicht gehabt, keinen anderen Ausweg. Wir zu nehmen eine andere Bahn, und wir seinen angekommen in Omsk, und nachdem in Tomsk. Wo soll ich euch sagen? Wir sind ein gewesen in Sibir und da ist ein gewesen kalt. Wir sind nachher in Stadt und gesucht eine jüdische Kehille. Wir sollen uns helfen. aber leider haben wir da keinen nicht gefunden. Wer soll uns können helfen? Aber Menschen haben uns geraten, zu fahren auf Almaty. Wir haben gewartet, bis wir haben gekriegt eine Bahn, was ist gefahren auf Dorten. Ich will euch nicht ausrechnen, alles steht, wo wir sind durchgefahren. Mit einem Wort, wir sind angekommen in Almaty. Da ist gewesen warm am Achaie. Wir haben es dann gemacht, als ein Stückel Weg. Man hat sich nun ein Weg geführt weiter, wie man darf. Jetzt von Tomsk sind wir gefahren, als dort in der Länge, in der Breite. Geht ein Guck auf Atlas, wird ihr sehen. Nur da, wo wir sind jetzt gekommen, ist gewesen warm. Ist das für uns gewesen eine große Sache. Viele zu hungern, also es ist warm. Ist euch leichter. Stellt sich vor, als ein Engel von Tels, was ist keinmal nicht rausgefahren weiter bis Kovne, gefühlt sich die tausender Kilometer von Tels und zwei Tritt von China. Nur in China sind wir nicht gefahren, weil wir seine nicht gewinnt die Balabatim. Und die Russen wollten uns gewiss nicht gelosen. Wir sind da geblieben viel Tag, aber keine Nacht haben wir nicht gehabt. Wir haben sie nicht gehabt, was zu messen. Und die Menschen sind nicht gewöhnt, Gastern daher. Da sind die Kirgisen. Die pflegen auf viele nicht wollen, reden Russisch. Und in Stotrat hat man gegeben, einmal ein Tag essen. Man hat uns gesagt, dass wir sollen fahren in Taskent. Weil dort haben sie gesagt, ist da ein Komitee. Welcher vernimmt sich mit den Plitim? Nun haben wir weitergenommen den Bahn und angekommen in Taskent. Alle sind in Europa vom Bahn. Nun stellt sich vor, wie viele hunderte Kilometer wir haben gemacht, die Brücke. Anstatt zu fahren, mit dem gleichen Weg, haben wir gemacht jenem Rundweg. Gewöhnlich, das ist nicht gewesen, abhängig von uns. Wir sind nicht gewesen, die Balabatin. Taskent ist einmal als eine Stadt und noch eine Größe und eine Säubere. Die Sonne hat gebrannt und es ist gewesen sehr heiß. Der Hitz ist gewesen sehr groß, als man fleckt lang gucken auf Asphalt, hat sich heiß geducht, wie das Wald gewesen ein Jahr. Die Stadt ist Tage gewesen als Säubere. Das heißt, die beides, selber ausgemalt, mehrsten Teil weiß. Aber die Menschen haben sich gewelgert in die Gassen, weil man hat da gebracht sehr viele Menschen von der Erde, wo die Dasten haben vernommen. Und Menschen haben Posset geschlafen in die Gassen. Alle haben sich registrieren in spezielle Büros. Und von dann an pflegt man Absichten in andere kleinere Städte oder in die Kolchosen.
Ich hab sich verliebt in Adinga, das Scheine. Und ich kenn zu ihm nicht gut.